oublions les startups technologiques juste un instant. En ce moment même, au Maroc, l'un des secteurs les plus lucratifs, genre avec des marges nettes qui frôlent parfois les 40%, bah ça n'implique ni intelligence artificielle, ni crypto.
Ouais, on est sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre, c'est le cas de le dire.
C'est ça, ça implique des chèvres, des pâturages et une maîtrise absolue de la patience. On explore aujourd'hui la transformation économique fulgurante du marché du fromage artisanal au Maroc.
Et pour vraiment comprendre cette dynamique, je suis ravie d'être là parce qu'on s'appuie sur une vraie mine d'or, un dossier détaillé et des fiches de projet qui ont été publiées en mai 2025 par monprojet.ma, la plateforme marocaine d'accompagnement entrepreneurial.
Exactement. Et l'objectif de notre exploration aujourd'hui, pour tous ceux qui nous écoutent, c'est pas d'apprendre à mouler un camembert. C'est vraiment une étude de cas sur la façon dont le retour au terroir devient un moteur d'indépendance financière hyper puissant.
Et c'est un document qui est particulièrement révélateur parce qu'il nous montre en fait la mécanique interne d'une mutation. On a là l'intersection parfaite entre un savoir-faire rural ancestral,
qui existe depuis des siècles, oui.
Voilà, et des stratégies d'entrepreneuriat moderne très pointues. Le marché y passe vraiment d'une logique de subsistance locale à une vraie structuration économique, avec des cibles claires et des modèles de rentabilité très précis.
Ouais, c'est fascinant. Mais bon, avant d'aborder les chiffres purs et les marges, il faut impérativement comprendre le moteur de cette demande. L'étude montre que ce marché, il est tiré par une population très spécifique.
Les jeunes urbains, principalement.
C'est ça. Les 18-35 ans, surtout dans les grandes métropoles, comme Casablanca, Rabat, Marrakech et Tanger. Et ce qui frappe dans les données, c'est le rejet massif des produits industriels de la part de cette génération.
Totalement. Il y a une vraie fatigue face à ces blocs de fromage sous vide, tu sais, ultra standardisés qu'on trouve partout en supermarché.
Bon, décortiquons un peu tout ça. Pourquoi ce rejet soudain? Est-ce que c'est pas juste une mode éphémère pour hipsters urbains en quête de nouveautés?
Ce qui est fascinant ici, c'est que ce rejet s'explique par les mécanismes mêmes de l'industrie agroalimentaire. Pour produire à grande échelle et garantir une longue conservation, les industriels doivent standardiser à outrance.
C'est-à-dire pasteuriser à fond.
Exactement. La pasteurisation systématique à haute température, ça tue une grande partie de la flore bactérienne naturelle du lait. Ils utilisent des ferments standardisés, des processus d'affinage accélérés. Et le résultat, inévitablement, c'est un produit dont le profil aromatique est complètement plat.
C'est fade, quoi.
Ouais, c'est fade. Et le consommateur urbain moderne, il s'en rend compte. Il cherche ce qu'on appelle la réassurance par le circuit court. Une traçabilité totale, une texture complexe et surtout l'expression d'un terroir.
Que ce soit un fromage frais à l'huile d'olive ou une tome affinée aux herbes de l'Atlas.
Tout à fait. C'est le paradoxe de notre époque alimentaire, en fait.
Ah oui, c'est clair. Plus nos vies deviennent numériques, plus on exige de mettre dans notre assiette un truc physiquement ancré dans la terre. Et l'étude souligne aussi que cette demande locale, elle est vachement renforcée par les expatriés et les touristes.
Qui cherchent justement cette authenticité marocaine et qui ont le pouvoir d'achat pour l'exiger.
Voilà. Mais du coup, sur la question de la tendance éphémère, la concurrence industrielle ne va pas juste s'adapter et écraser ces petits artisans?
L'analyse de l'offre actuelle prouve qu'il s'agit d'une correction structurelle du marché, pas d'une mode. Sur le segment précis du fromage affiné artisanal, la concurrence marocaine est encore très fragmentée. Les grands groupes agroalimentaires ne peuvent tout simplement pas occuper cet espace.
Parce que leur modèle, c'est le volume massif, c'est ça?
Exactement. Des volumes massifs et des coûts de production très bas. Ils ne peuvent pas simuler à l'échelle de millions d'unités l'attention quotidienne qu'il faut pour brosser et retourner à la main des meules dans une cave.
Ah ouais, la température qui varie avec les saisons, les soins manuels.
Voilà. Donc l'inefficacité inhérente au travail artisanal, le fait que ce soit lent et à petite échelle, c'est paradoxalement ce qui crée la valeur premium du produit.
C'est fou quand on y pense. L'industrie peut pas tricher avec le temps d'affinage sans que le palais s'en aperçoive.
Et c'est ce qui crée une barrière à l'entrée très protectrice pour les petits producteurs. Ils ont le monopole de l'authenticité gustative, tout simplement.
Ce qui nous amène logiquement à la mécanique financière. Parce que si la demande est là et que l'industrie classique est hors-jeu sur le premium, comment on structure son projet pour capter cet argent? Les fiches de monprojet.ma détaillent deux voies vers la rentabilité.
Deux visions totalement différentes de l'entreprise, oui.
Prenons d'abord le scénario rural, tu sais, celui axé sur la production à la ferme et la vente directe. Ça donne quoi en chiffres?
Alors, ce premier modèle, il est fascinant par sa résilience. L'investissement initial estimé est de 60 000 dirhams.
60 000? C'est pas énorme. Ça couvre quoi, en gros ?
L'essentiel. L'acquisition d'un petit troupeau de chèvres ou de brebis, l'achat du matériel de base, comme les cuves de caillage, les moules, un thermomètre pro, et un aménagement sommaire pour l'affinage.
Et au niveau des frais courants ?
Les charges mensuelles d'exploitation sont évaluées à environ 4000 dirhams. Ça inclut l'alimentation du troupeau, les soins vétérinaires, l'énergie.
D'accord. Et du côté des revenus, l'étude table sur une production modeste d'une centaine de fromages par mois, c'est ça ?
Oui, vendu entre 30 et 40 dirhams l'unité en circuit court.
Ce qui fait un bénéfice net estimé entre 3000 et 4000 dirhams par mois pour la première année. Et là, faut qu'on s'arrête un instant.
Je sens venir le mai.
Bah oui. Sur le papier, le retour sur investissement en 24 mois est excellent. Mais dans la vraie vie, gérer un troupeau, c'est du 7 jours sur 7, quoi.
Ah oui, la traite n'attend pas les jours fériés, hein.
Exactement. Fournir un effort quotidien aussi monstre, avec la charge mentale des maladies ou de la météo, tout ça pour 3000 dirhams net. C'est un peu comme cultiver un potager géant juste pour vendre 3 carottes au marché. La proportionnalité entre l'effort et le gain semble complètement déséquilibrée.
Si l'on relie cela à une perspective plus large, la critique est justifiée. Surtout si on regarde ça avec le prisme d'un salaire urbain. Mais le document s'adresse à un profil socio-économique différent.
C'est-à-dire ?
C'est plus pour sécuriser un emploi rural.
Exactement. C'est pas fait pour faire fortune. C'est conçu pour créer une autogestion pérenne avec un risque financier minime. Investir 60 000 dirhams pour s'auto-employer en zone rurale, c'est une vraie stratégie de sécurisation. On maîtrise tout, de l'animal au client, sans dépendre d'aucun fournisseur. Ah, je vois. Il s'agit de valoriser un mode de vie et une indépendance totale. Mais pour ceux qui veulent vraiment monter une vraie PME, genre une entreprise qui grandit, il y a le second scénario.
Le modèle urbain ou semi-industriel. Et là, la philosophie n'a rien à voir.
Ouais. Là, on parle d'un investissement de 150 000 dirhams et on s'affranchit de la contrainte agricole. Zéro animal à gérer.
Zéro. Le capital sert à louer un local aux normes de l'ENSA, à acheter des équipements en inox de plus grande capacité et à passer des contrats d'achat de lait avec les éleveurs locaux.
Donc on délègue tout l'amont, qui est imprévisible, et on se concentre à 100% sur la transfo et la vente.
C'est ça. Et les projections sont différentes. On vit 500 fromages par mois, ciblant le réseau B2B. Donc, épicerie fine, hôtel de luxe, restaurant.
Avec un prix moyen de 35 dirhams, on est sur un chiffre d'affaires entre 17 500 et 20 000 dirhams.
Et c'est dans la structure des coûts de ce modèle que la fameuse marge de 40% prend tout son sens. Même si le loyer, l'achat du lait, l'énergie pour la chaîne du froid, qui est un vrai défi logistique, et l'emballage coûtent cher.
Le bénéfice net suit quand même ?
Oui, l'étude estime un bénéfice net initial de 6 000 à 8 000 dirhams, mais avec une trajectoire claire pour atteindre 15 à 20 000 dirhams une fois la vitesse de croisière atteinte.
Le risque est plus élevé, mais la capacité de croissance est infiniment supérieure. Et d'ailleurs, pour faciliter ce lancement, la plateforme mentionne des espèces de packs d'équipement, non ?
Oui, des packs clés en main. Il donne l'exemple d'un pack à 92 400 dirhams au lieu de 105 000 si on achetait tout séparément.
Ce qui prouve que le secteur devient mature. Quand des fournisseurs créent des solutions toutes prêtes, c'est qu'il y a un vrai écosystème qui se structure.
Absolument. Et ça permet à l'entrepreneur de ne pas s'épuiser à chercher chaque cuve ou thermomètre à droite à gauche. Toute cette énergie économisée, elle va dans la vraie guerre de ce marché.
Le storytelling. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'avoir un bon produit, c'est la base, mais ça ne suffit pas. Les marges premium, elles sont justifiées par l'image de marque.
L'esthétique, le packaging éco-responsable, on vend un ancrage dans le terroir.
On vend une expérience. Le client qui lâche 40 dirhams pour un petit chèvre, il achète l'histoire qui va avec. Et la stratégie linguistique décrite dans les fiches est géniale pour ça.
Oui, l'utilisation de la Daridia pour la proximité et le patrimoine. Couplé au français et à l'arabe classique pour rassurer sur le professionnalisme et toucher les expatriés. C'est très intelligent.
C'est littéralement traduire la culture locale pour une clientèle urbaine exigeante. Et le numérique fait le pont. Instagram, TikTok, tu montres la rosée du matin sur les champs, la coupe du cahier.
C'est très visuel, très satisfaisant à regarder. Et l'étude propose même d'aller plus loin en physique. Des dégustations sur place, des ateliers DIY pour fabriquer son propre fromage, des abonnements mensuels, des partenariats avec des influenceurs food.
On crée un écosystème fermé autour de la marque. Et il y a un détail dans la source qui confirme complètement que cette stratégie narrative marche, le fameux commentaire laissé sur la plateforme.
Ah oui, le commentaire de Safa en janvier 2026.
C'est un élément tellement symptomatique. Safa laisse un message presque désespéré. Elle explique qu'elle cherche partout, dans le nord du pays, du fromage de chèvre local, avec une touche moderne. Elle demande carrément les contacts des coopératives.
Ce commentaire illustre parfaitement la friction actuelle du marché. La demande est là, elle a l'argent, mais l'offre est soit introuvable, soit mal packagée.
Quand elle dit touche moderne, ça veut tout dire. Elle veut le goût brut, mais avec les codes d'aujourd'hui. Beau packaging, hygiène parfaite, achat facile.
Et cela soulève une question importante concernant les normes. Historiquement, détailler l'hygiène, la désinfection, c'était juste pour l'inspecteur de l'office sanitaire.
Une grosse contrainte légale, quoi.
Mais aujourd'hui, la transparence totale est devenue l'arme marketing numéro un.
C'est tellement vrai. Filmer les labos immaculés, expliquer d'où vient le fourrage, ça justifie le prix premium. Face à une industrie opaque, l'artisan qui montre tout, il gagne une confiance inébranlable.
Le client a l'impression d'être partenaire de la production.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? En analysant toutes ces données, c'est clair que l'explosion de la fromagerie artisanale au Maroc, c'est pas juste une petite anecdote agricole. C'est une vraie leçon d'économie.
Une leçon qui prouve qu'on peut faire 40% de marge tout en revitalisant une filière locale.
Exactement. C'est l'alliance parfaite du savoir-faire séculaire et du marketing digital. Et le plus fou, c'est que ce modèle hybride est super reproductible. On pourrait calquer ça sur l'huile d'olive, la cosmétique, la maroquinerie.
Tant qu'on identifie une faille dans l'offre industrielle, qu'on ajoute une narration authentique et qu'on maîtrise ses coûts, ça marche. C'est un canevas universel pour l'artisanat premium.
C'est brillant. Mais ça amène inévitablement à se projeter un peu plus loin. Une question fondamentale, qui n'est pas dans nos sources d'ailleurs, mais qui est logique. Que va-t-il se passer dans 5 ou 10 ans?
Quand ces PME artisanales auront pris énormément de poids.
Voilà, quand elles vont multiplier leur chiffre d'affaires et consolider des marques très fortes, elles vont fatalement attirer l'attention des géants de l'agroalimentaire.
C'est le cycle classique.
Ouais. Est-ce qu'on va assister à une vague de rachat où ces artisans vont se faire absorber et perdre leur fameuse touche moderne au profit de la rentabilité de masse?
Ou alors, et ce serait génial, la pression de ces artisans sera tellement forte qu'elle obligera l'industrie globale à rehausser ses propres standards pour survivre.
Face à un palais marocain devenu hyper exigeant, c'est une réflexion captivante à garder à l'esprit la prochaine fois qu'un bout de fromage artisanal se présentera sur la table. Merci beaucoup d'avoir décortiqué ça avec moi et à très bientôt pour une nouvelle analyse.
Merci, à bientôt.